Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Au Mali, question sur le recours possible à une unité d'élite antiterroriste pour réprimer la contestation civile contre le pouvoir. Et le cabinet du Premier ministre a posé la question au ministre de la Sécurité après 3 jours de violence qui ont fait 11 morts et des dizaines de blessés. Il s'agit de la force spéciale antiterroriste. Les leaders du mouvement qui ont accusé les autorités d'usage excessif de la force appellent à un rassemblement de recueillement vendredi. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré. Le Sénégal a entamé hier la construction d'un nouveau camp militaire à sa frontière avec le Mali, en proie au djihadisme, pour contrer les menaces transfrontalières et les nombreux trafics qui sévissent dans la zone, a appris l'AFP auprès du ministère des Forces armées. Ni le ministère ni l'armée n'ont communiqué les effectifs et les moyens qui seront affectés au camp de Goudiri dans l'Est, à plus de 570 km de Dakar. Le Sénégal, qui a des troupes au sein de la MINUSMA, la force de l'ONU au Mali, n'a pas été touché par les attaques djihadistes qui frappent plusieurs autres pays du Sahel, dont son voisin malien. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a procédé, à 9 mois de la présidentielle, à un remaniement conséquent de son gouvernement, avec l'entrée de 14 nouveaux ministres et 6 secrétaires d'État, dont plusieurs jeunes, des femmes et un peu plus de représentants de petits mouvements alliés à son parti. Le ministère des Affaires étrangères est confié à Amin Abba Sidik, actuellement ambassadeur en France. Son prédécesseur, Mahamat Zaine Chérif, devient ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Aucun changement pour les autres ministères clés, la Défense, les Finances et le Budget, l'économie, la justice et l'administration du territoire. La mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, la MINUAD, a condamné mardi des incidents violents qui ont fait 9 morts et 20 blessés dans l'état du Darfour du Nord. Les tensions entre tribus arabes et africaines au Darfour remontent à 2003. À cette date a débuté un soulèvement d'insurgés de minorités ethniques s'estimant marginalisées contre le régime du président déchu Omar al-Bashir aux mains de la majorité arabe. La guerre civile au Darfour a fait au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon l'ONU. La pandémie de coronavirus continue de s'étendre dans le monde, contraignant des pays comme l'Inde à reconfiner des dizaines de millions de personnes. Mais l'espoir d'un vaccin renaît aux États-Unis, où une firme de biotech s'apprête à lancer la phase finale de ses essais cliniques, après la publication de résultats préliminaires prometteurs. Et puis, revirement spectaculaire du président Donald Trump, son administration a renoncé hier à priver de visa les étudiants étrangers dont les cours resteraient entièrement virtuels à la rentrée pour cause de pandémie, et ce, après avoir été vigoureusement attaqué en justice par des universités dont les prestigieuses Harvard et MIT. Des milliers d'étudiants étrangers risquaient d'être expulsés. Par ailleurs, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il s'est aussi attaqué à plusieurs reprises à son adversaire démocrate Joe Biden, le président Trump a annoncé hier qu'il mettait fin au régime économique préférentiel accordé par les États-Unis à Hong Kong et qu'il avait également signé une loi prévoyant des sanctions contre la répression dans le territoire chinois. Ces mesures répondent à l'imposition par la Chine d'une loi draconienne sur la sécurité nationale. En réaction, la Chine a menacé aujourd'hui les États-Unis de représailles. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. suite de nos informations, au Mali, le M5 RFP appelle au nouveau rassemblement ce vendredi. Cette fois-ci, il s'agit d'une prière collective au monument de l'indépendance pour rendre hommage à ces martyrs tombés sous les balles lors des événements des 10, 11 et 12 juillet derniers. Le Premier ministre malien annonce l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités par rapport aux tueries, alors que la CEDEAO envoie une mission à Bamako avec à sa tête l'ancien président nigérian Jonathan Goodluck. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
La crème des responsables du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, était devant la presse hier. Ils maintiennent sans ambiguïté la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Maître Muntaga Tall, membre du directoire.
Nous revenons à nos fondamentaux, la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons acquis la conviction aujourd'hui que M. Ibrahim Boubacar Keïta n'a ni les capacités physiques ni les capacités intellectuelles de diriger le Mali.
Le M5 est RFP demande une enquête indépendante et internationale sur les tueries du week-end d'après leur manifestation.
Vendredi 17 juillet, monument de l'indépendance à 14h, prière collective, hommage à nos martyrs. Nous avons mis en place et au travail une équipe de juristes pour déposer plainte pour assassinat. Nous allons saisir la Cour internationale de justice pour les crimes commis.
Le Premier ministre malien annonce l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités par rapport aux tueries des derniers jours. Une délégation de la CEDEAO est attendue aujourd'hui à Bamako, composée des présidents de cours constitutionnels, avec à sa tête l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le procès en appel de Vital Kamerhe, condamné à 20 ans de travaux forcés, est fixé au 24 juillet. Le point avec Eddie Isango.
Les avocats de Vital Kamerhe précisent que le procès en appel se tiendra à leur demande. L'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a été condamné le 20 juin dernier pour détournement de près de 50 millions de dollars qui étaient destinés à la construction de logements sociaux. Il a été reconnu coupable avec l'entrepreneur libanais Sami Jamal. Les avocats de M. Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, continuent de réclamer les preuves irréfutables de son implication dans ces détournements. Ils dénoncent le fait que ce soit un parquet différent de celui qu'il a entendu pendant les enquêtes qu'il a conduit devant les juges. Ils n'admettent pas non plus que les juges aient accepté des documents présentés seulement dans le procès par la partie accusatrice et les témoins. Son avocat français, maître Pierre-Olivier Sûr, a même dénoncé un simulacre de procès et une procédure expéditive diffusée en direct à la télévision. Vital Kamerhe n'a cessé de clamer qu'il avait agi au nom du président de la République.
Face à la pandémie qui progresse aux États-Unis, le gouverneur de l'État de New York a étendu hier la liste des États dont les visiteurs seront soumis à une quarantaine et qui devront fournir leurs coordonnées en arrivant dans les aéroports new-yorkais. Le point avec Michel Joseph.
La liste des États américains dont les visiteurs sont contraints de s'isoler pendant 14 jours concerne désormais 22 États. La liste inclut notamment la Californie, le Texas et la Floride, les trois États américains les plus peuplés et où la contamination a explosé. Ont été ajoutés le Minnesota, le Nouveau-Mexique, l'Ohio et le Wisconsin. Alors qu'il n'y avait pas de contrôle formel des contraintes de quarantaine jusqu'ici, depuis hier, des agents veillent aussi à ce que les voyageurs débarquant dans les aéroports new-yorkais remplissent un formulaire destiné aux services de santé avec leurs coordonnées. Si l'épidémie a spectaculairement reculé dans la ville de New York, où un déconfinement prudent a été amorcé début juin, elle progresse dans de nombreux États. La Californie amène durci les restrictions pour les commerces, généralisant la fermeture des bars, restaurants, cinémas et zoos. Avec plus de 3,42 millions de cas, les États-Unis sont aussi le pays le plus endeuillé, avec plus de 136 000 morts.
La Minute Éco est à bord.
Les créanciers de la compagnie aérienne sud-africaine ruinée South African Airlines ont approuvé un plan de restructuration qui se traduira par la suppression de 2700 postes et la création d'une nouvelle société, a annoncé mardi le ministère des Entreprises publiques. La restructuration va nécessiter un apport financier de 596 millions de dollars selon le gouvernement. Boeing a annoncé l'annulation de 60 avions 737 MAX supplémentaires en juin, selon des données publiées mardi, portant le total à 355 jusqu'à présent cette année. Les compagnies aériennes ont annulé une commande ou repoussé les livraisons dans le but de conserver des liquidités pour surmonter la récession. Son rival, Airbus, a annoncé la semaine dernière qu'il n'avait pas reçu de nouvelles commandes en juin pour le deuxième mois consécutif. En juin dernier, l'État mauritanien a révisé les termes du partenariat qui le lie au Canadien Kinross Gold, la plus grande compagnie aurifère opérant sur son sol. Censé mettre fin à des différends entre les deux parties, l'accord permettra d'accroître les revenus que Nouakchott tire de l'or. Sur une courbe ascendante depuis plusieurs mois, le cours de l'or a profité de la pandémie de Covid-19 pour dépasser les 1700 dollars l'once et les prévisions annoncent une montée jusqu'à 2000 dollars l'once.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Athlétisme pour commencer. Le marathon de Chicago, prévu pour le 11 octobre, a été annulé à cause du Covid-19. En réponse aux préoccupations persistantes de santé publique provoquées par la pandémie de coronavirus, la ville de Chicago a annoncé la décision d'annuler le marathon de Chicago 2020 et toutes les activités du week-end de course, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. Le mois dernier, le marathon de New York, l'un des événements les plus prestigieux du calendrier mondial de la course à pied, a été annulé, de même que ceux de Boston, Dublin et Paris. Le marathon de Londres a pour le moment été reporté au 4 octobre. Basketball, le championnat national tunisien, reprend dès aujourd'hui, 15 juillet, pour le compte de la suite et fin de la saison 2019-2020. Une reprise avec au programme les affiches des demi-finales aller des play-offs. La première oppose l'Espérance sportive de Rades à Dalia Grombalia, sport à Rades. L'US Monastir recevra la JS Kairouan à la salle Mohamed Mzali dans le cadre de la deuxième demi-finale. Les matchs retour auront lieu le 22 juillet et un match décisif prévu le 25 juillet. En cas d'égalité, la finale prévue en aller-retour se jouera les 8 et 12 août. Football en Afrique du Sud, le championnat va reprendre dans la province de Gauteng, région la plus touchée par la pandémie de coronavirus et qui comprend les villes de Pretoria et Johannesburg. Quatre footballeurs, dont Ben Moshwari, des Orlando Pirates, ont confirmé avoir été testés positifs au coronavirus et se sont complètement rétablis. Le médecin de la fédération, Tulani Ngunia, a déclaré que son plan de lutte contre le virus est considéré par la FIFA comme l'un des meilleurs qu'elle ait reçu. Le président de la Ligue, Irene Koza, a soutenu qu'il faudrait 6 semaines pour terminer la saison. Il reste 54 matchs de championnat à jouer, plus les demi-finales et la finale de la Coupe d'Afrique du Sud. La Ligue prévoit d'utiliser jusqu'à 11 stades et 14 terrains d'entraînement. Toutes les rencontres se dérouleront à huis clos et la plupart seront retransmises en direct, mais la date de reprise exacte n'a pas été communiquée. En Europe, le président du Benfica, Lisbonne, Luis Felipe Vieira, la société qui gère le club et celle qui détient son stade, ont été mises en examen par la justice portugaise pour fraude fiscale. Le parquet général a confirmé l'existence d'une enquête portant sur des faits susceptibles de constituer un délit de fraude fiscale. Selon une information dévoilée par le quotidien sportif Abola et confirmée ensuite par plusieurs médias portugais, l'affaire porterait sur des paiements d'un montant de 1,8 million d'euros versés en 2018 à un prestataire informatique pour des services qui n'auraient jamais été rendus.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédoulia, place maintenant à nos dossiers du jour. Presque toutes les personnes interpellées lors des manifestations à Bamako depuis vendredi ont été libérées, si l'on en croit les leaders de la contestation. Lundi, les autorités maliennes ont relâché les leaders de la contestation qui réclament un changement de pouvoir. Parmi ces personnes figurait Clément Dambélé, connu pour sa croisade contre la corruption dans le pays. Au micro de Bagassikoura, il revient d'abord sur les conditions de son arrestation.
Moi-même, j'étais enlevé depuis le vendredi, la nuit du vendredi au samedi. Ils sont venus chez moi avec 5 pick-up remplis d'hommes cagoulés en noir, avec des pistolets mitraillettes. Ils ont entouré la maison, ils ont investi à l'intérieur. Et après, ils m'ont enlevé, ils m'ont amené dans une pièce qui fait à peu près 9 mètres carrés, où je suis resté là-bas pendant tout le week-end. Et hier après-midi, ceux qui étaient à la gendarmerie ont été libérés. Moi, j'ai été libéré vers le coup de 21h. Et apparemment, les autres manifestants ont été libérés. Et ce qu'on nous a dit, nos avocats disent que tout le monde, à l'heure où je vous parle, tout le monde a été libéré.
Alors, quelle est la situation ce mardi à Bamako? Est-ce que le calme est revenu?
Le calme est relatif à Bamako. Il y a une préparation qui est là et puis nous sommes en train d'enterrer les morts.
Et vous parlez de combien de personnes?
Aujourd'hui, nous avons enterré 4 personnes. Au total, nous sommes à peu près une vingtaine de personnes, dont 11 ont été identifiées et à peu près 9 personnes ne sont pas encore véritablement identifiées, ce qui fait à peu près 20 morts et plus de 150 blessés au niveau des hôpitaux.
Est-ce qu'on sait comment ils sont morts?
Alors, les gens qui sont morts, c'est principalement quand les gens sont venus pour occuper les locaux de l'ATM et l'Office des radios et des télévisions nationales de façon pacifique. Parce que moi-même, j'étais présent, on ne cassait pas, on ne brûlait pas, les gens étaient simplement là pour la désobéissance civile, donc c'était un cycle qui a été organisé. Et au bout de 1h30, il y a la force spéciale anti-terrorisme, qu'on appelle FOSAT, qui est venue, et d'autres personnes sont arrivées, ils sont tous cagoulés avec des tenues noires, et se sont mis à tirer dans la foule. La deuxième partie, c'est au niveau de la mosquée de l'imam Mahmoud Duko à Badalabou, où les policiers sont venus, les mêmes policiers, l'unité spéciale est venue pour rentrer dans la mosquée, dans son domicile. Les populations sont sorties pour faire un barrage. Et ils ont tiré dans l'État, ils ont tué des gens. Et au niveau aussi de l'Assemblée nationale, il y a eu des tirs qui ont blessé des gens qui sont décédés après. Donc, et la plupart des morts, c'est au niveau de la mosquée de l'imam Mahmoud Duko, à l'ETM et au niveau de l'Assemblée nationale.
Comment vous voyez la suite des choses? Est-ce que vous êtes maintenant dans le processus de dialogue?
Nous allons dialoguer, mais nous allons continuer notre désobéissance parce que notre objectif, c'est maintenant la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons tenté.
Ah oui, ça ne change pas?
Nous avons tenté toutes les solutions. Il ne veut rien savoir. Il est resté sur sa position. Il parle de la Cour constitutionnelle qui a été faite, mais ce n'est pas vrai parce qu'il n'y a pratiquement plus personne dans cette Cour constitutionnelle. Il joue avec le temps, il joue avec l'usure. Et nous, aujourd'hui, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de façon pacifique, de façon démocratique.
Le professeur Clément Dambélé, un des leaders du mouvement de contestation au Mali.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
En République démocratique du Congo, confusion autour de la démission du président de la Cour constitutionnelle sous sanction américaine pour les élections de 2018. Le président Félix Tshisekedi a remercié le président de la plus haute cour, Benoît Luamba Bintou, service rendu à la justice congolaise. Répondant à un procès-verbal du Conseil supérieur de la magistrature, qui prend acte d'une lettre de démission, mais son avocat dément toute démission. Dimanche, l'Agence nationale des renseignements a cassé les bureaux du président de la Cour constitutionnelle. Eddie Isango a joint l'avocat du président de la Cour constitutionnelle, Maître Théodore Ngoyi.
Comme je l'ai expliqué, il n'y a pas d'émission parce que celle-ci a été démentie par le président de la Cour constitutionnelle. Il s'ensuit que les actes qui ont été posés en vertu de cette prétendue démission sont caduques. Le président reste en place, il est en soins pour le moment. Quand il va revenir, il aura la liberté de dire si oui ou non il a démissionné ou il n'a pas démissionné. Pour le moment, nous avons Khaled qui dit qu'il n'a pas démissionné.
Donc vous confirmez que son bureau a été perquisitionné indûment.
Bon, d'abord, ce n'est pas une perquisition, c'est une intrusion, c'est une agression. C'est une procédure qui est ordonnée régulièrement avec un mandat, mais et puis par les personnes compétentes. Les agents de la mer sont compétents pour rechercher des infractions portant atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État congolais. Mais une démission d'un président de la République qui est d'ailleurs démenti porte atteinte à quel élément de sécurité? Pour que les agents de la mer viennent perquisitionner, enfin pas perquisitionner, casser. Ils ont cassé les locaux qui sont inviolables, et même que les archives et les documents de la Cour. Ils ont cassé l'antichambre, le local qui abrite le service de l'antichambre du président. Ils ont cassé le local qui abrite les services administratifs à la recherche des documents ou des sceaux ou des registres, parce qu'on voudrait, semble-t-il, donner un numéro correct à la lettre des démissions attribuées au président, dont le numéro appartient à une lettre autre que celle-là, pour dire que cette lettre n'est pas passée par la Cour. Elle porte les références de la Cour, mais ces références-là ne sont pas celles de cette lettre. Elles sont celles d'une autre lettre, sorties à la même date, selon le registre.
Mais qu'en est-il alors de l'acceptation par ses compères de cette démission?
Mais c'est un procès verbal caduque, parce qu'ils ont accepté une démission sur base d'une lettre qui ne leur est même pas parvenue par la voie régulière. C'est-à-dire que si le président leur avait adressé cette lettre, elle aurait été enregistrée dans le registre d'entrée. Et sur base de cette lettre, ils auraient pris acte. Mais là, il n'y a pas trace d'une lettre sortie de la Cour et entrée à la Cour à l'attention de ces juges. Par contre, il y a une lettre du président écrite depuis Bruxelles et qui est entrée à la Cour et par laquelle il leur dit « je n'ai pas démissionné ». Dans le communiqué, je rapportais que les agents de la mer ont convoqué le président intérimaire et le directeur de cabinet du président pour aller au bureau le dimanche, justement parce qu'ils voulaient casser les bureaux en faisant de ces deux personnalités-là.
Maître Théodore Ngoyi, avocat du président de la Cour constitutionnelle.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, un tenant de la suprématie blanche condamné à mort pour un triple meurtre a été exécuté dans l'Indiana ce mardi lors de la première exécution fédérale depuis 17 ans après que la Cour suprême a donné le feu vert aux autorités fédérales. Aux États-Unis, 21 États ont aboli la peine de mort et d'autres ont des moratoires sur les exécutions. Mais 28 États américains sur les 50 de l'Union appliquent la peine capitale. Nathalie Barge a joint Joseph Fa, avocat dans le Maryland, où la peine de mort a été abolie en 2013.
Nous sommes, j'ai envie de dire, choqués d'un point de vue du droit de l'homme et d'un point de vue de la constitutionnalité de la peine de mort également. Nous allons dire que nous sommes choqués et je pense qu'il est temps que la Cour suprême revisite de la constitutionnalité de la peine de mort. Nous pensons que cela est immoral et inhumain. On peut condamner des gens à vie sans sursis, quitte à ce qu'ils meurent dans les prisons. Mais lorsque vous condamnez quelqu'un pour la peine de mort et que chaque jour, il se dise « demain c'est mon dernier jour, alors aujourd'hui serait mon dernier jour », c'est plus que de la torture.
Alors, l'application de la peine de mort au niveau fédéral n'était plus possible depuis 2003, comme vous l'avez dit. Mais qu'est-ce que cela implique, sachant qu'une trentaine d'États la pratiquent encore aux États-Unis?
Ce qui est vrai, parce qu'en fonction des crimes, chaque État décide de comment gérer ses droits. En fonction des crimes, il y a des États où la peine de mort est complètement illégale, cela ne se fait plus. Au niveau fédéral, ce n'est pas que c'était illégal, c'est simplement qu'il y avait eu sursis sur exécution depuis près de 17 ans, depuis près de pratiquement 2003. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des contentieux qui existent sur la manière par laquelle l'exécution doit être faite, parce qu'on estime que certains médicaments ou bien certaines injections qui étaient faites torturait beaucoup le prisonnier avant qu'il ne meure. Or, cela est inhumain, qui est une violation du 8e amendement, qui prend offense à tout ce qui est cruel comme peine. Or, les injections qui durent, les médicaments qui durent, qui vont faire torturer le prisonnier avant qu'il ne ferme les yeux, sont considérés comme cruels en violation du 8e amendement de la Constitution. Ce qui fait que pendant les 17 années, il y avait un important contentieux là-dessus, y compris même l'exécution qui a eu lieu ce matin à 8h07, celle de M. Lee, où la partie défenderesse, ou bien la défense, estimait que le médicament qui devait être utilisé pour l'injection posait un problème. Et ils ont demandé à la Cour suprême de mettre l'exécution en attente, en espérant qu'on ait un autre contentieux là-dessus pour déterminer si oui ou non le médicament en question pourrait être moins, l'état lui pourrait poser moins de peine pour le prisonnier.
C'était Joseph Fa, avocat dans le Maryland, ici aux États-Unis.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Toujours aux États-Unis, l'équipe de football américain de Washington a annoncé l'abandon de son nom de Redskins, pour rouge en français, considéré comme raciste envers les Amérindiens. Le propriétaire de l'équipe, Dan Snyder, a finalement cédé après s'être longtemps opposé à ce changement de nom. Mais le débat a été relancé après la mort de George Floyd et les manifestations contre le racisme. Pour une analyse, Abdulrahman Dia a joint dans le Maryland Eugène Pewa Pelema, président d'Africa Education Sports.
Sur le plan historique du nom, puisque l'équipe a toujours été appelée de la sorte, sur le plan peut-être émotionnel, pour les supporters, ça peut être c'est important, mais je pense qu'aujourd'hui, en 2020, avec ce qui est arrivé, avec l'assassinat de George Floyd, et depuis des années déjà, les natifs avaient demandé que ce nom soit enlevé parce qu'ils estimaient que ça faisait un peu raciste. Et c'est depuis qu'ils demandent que cela soit fait et ça ne se faisait pas. Et donc, cela a été relancé il n'y a pas longtemps avec le Black Lives Matter Movement qui est venu un peu changer la face du monde. Et tous les problèmes d'ordre considérés comme racistes sont revenus à la surface. Et ce qui a fait probablement reculer finalement les gens parce qu'il y a eu une prise de conscience avec le Black Lives Matter. On a vu des gens de toute origine, que ce soit des Blancs, des Noirs, des Hispaniques, des Asiatiques, des gens de toutes les ethnies qui sont sortis pour s'exprimer sur le sujet.
Mais changer un nom, le nom d'une équipe, c'est toute une procédure, c'est compliqué hein, en sport, disons, en matière de droit du sport, n'est-ce pas?
Oui, c'est qui change. Ce qui change, je pense que c'est... Bon, il y a l'appellation, c'est copyright, ça change tous les t-shirts. En tout cas, l'application est beaucoup plus commerciale dans le sens où tous les produits ont été faits depuis des années et se sont appelés de la sorte leur nom, ce qui fait qu'en changeant aujourd'hui, c'est beaucoup plus un impact commercial, à mon avis, ça a à voir avec l'argent. Changer un nom, c'est pas aussi difficile que ça, mais c'est qu'aux États-Unis, le nom et la vente du produit vient avec le nom. Je pense que c'est plus de ce côté-là.
Surtout qu'on a vu que des compagnies comme Amazon ont décidé de ne plus vendre, par exemple, des t-shirts ou des maillots avec le nom Redskins.
Oui, totalement. C'est exactement ça. En fait, nous vivons dans une société capitaliste. Et donc, souvent, l'argent commande. Mais là, je pense que le côté, il y a un côté, un aspect qui a toujours été négligé. Et je pense que les gens prennent conscience de ça, le respect de l'autre, le respect de la culture de l'autre, le respect de l'humanité de l'autre. Et je pense que ça, c'est revenu au centre du débat. Et j'espère que ce ne sera pas que pendant juste un petit moment.
C'était Eugène Pewa Pelema, président d'Africa Education Sports. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui.